Bonjour frères et sœurs, c'est une joie pour moi de revenir. On est tous confinés, c'est vrai que nous on est confinés à Dunkerque, mais bon, que Dieu vous bénisse. Hein. Dans ces moments, c'est vrai que, comme ça a été dit, ça nous permet d'avoir du temps pour réfléchir. Et ce matin, j'ai envie de vous parler... Comment dire, le titre que je donnerais à ce message, c'est comment dire, le Dieu du principe de l'effort. Ça paraît bizarre, et ce genre de titre, hein, le Dieu du principe de l'effort. Et je voudrais vous interpeller sur le Dieu tout-puissant. Il est tout-puissant? Bah oui, hein. Vraiment tout-puissant? Et nous avons l'habitude de le dire, et en le disant, on peut peut-être se poser des questions sur sa toute-puissance. Et c'est embêtant parce que, comment dire, ce Dieu qui est tout-puissant, il aurait pu faire avec un claquement de doigts l'ensemble de la création, paf, pouf, d'un seul coup, en 2 secondes ou 4 millisecondes, je ne sais pas, enfin bref, tout est fait. Et puis, l'homme aussi est fait. Et nous avons l'habitude de dire, oui, il est tout puissant, et je voudrais vous interpeller sur comment vous le voyez, cette toute puissance. Pourquoi je vous parle de ce Dieu du principe de l'effort? C'est qu'il y a chez Dieu, et c'est embêtant de dire effort pour Dieu, parce que si Dieu est tout puissant, il n'a pas besoin de faire d'effort. Et pourtant, il y a un peu cette notion, et je n'ai pas trouvé de terme mieux que dire effort. C'est le Dieu du principe de l'énergie, enfin c'est un peu embêtant parce que ça fait un peu énergie, psycho-bazar, ça ne va pas non plus. Donc je reste à mon titre, le Dieu du principe de l'effort. Et puis, je voudrais donc qu'on médite juste un peu là-dessus. Ça commence comme ça d'ailleurs. Le Dieu Tout-Puissant se démontre, et il se montre, et il veut qu'on le comprenne. Et en le comprenant, je ne le comprends pas. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais moi je ne comprends pas. Il est Tout-Puissant, alors clic, et puis tout est fait. Et quand vous le voyez dans la parole de Dieu, eh bien il y a eu un premier jour. Qu'est-ce qui s'est passé ce premier jour? Il y a eu la lumière. Il y a eu donc un tri entre la lumière et les ténèbres. Hein. Ensuite, il y a eu une journée. Et une journée, enfin, alors, vous pouvez discuter, on peut discuter. Le problème n'est pas là de savoir si c'est des milliers d'années ou si c'est 24 heures. Toutes les solutions sont possibles. Mais il n'y en a qu'une qui est la vraie, mais on ne la connaît pas bien. Hein. Et donc après le premier jour, il y a eu un deuxième jour, et ce deuxième jour, c'était il y a eu les eaux qui sont censées séparer du haut et du bas, et puis après il y a eu encore autre chose, il y a eu 6 jours. Hein. 6 jours, voilà, 6 périodes, enfin, c'est comme vous voulez. Mais ça nous laisse... quelque part, quelque chose qui nous interpelle. Mais enfin, si Dieu est tout puissant, il aurait pu faire autrement. Bon, vous me direz, oui, d'accord, c'est pas la peine de discuter si, sur la façon de faire autrement, puisqu'il l'a fait comme ça. Oui, d'accord. Mais ça montre quelque chose de la toute-puissance de Dieu. Donc on pourrait dire, le Dieu du principe de l'effort, c'est aussi le Dieu qui va jusqu'aux extrémités de sa toute-puissance. Mais vous imaginez que ça aussi, c'est un peu curieux. Parce que si Dieu est tout-puissant, il n'y a pas d'extrémité. Sa toute-puissance peut aller bien plus loin. Et pourtant, il s'est présenté lui-même comme étant celui qui fait les choses en 6 jours, et excusez-moi, je me suis trompé, en 7 jours. Parce que le 7e jour, pour Dieu, est quelque chose de primordial. Alors, il a besoin de se reposer. Il est tout-puissant, mais alors, ça veut dire que, à un moment donné, il se fatigue. Mais alors, s'il se fatigue, c'est qu'il n'est pas tout-puissant. Non, non. Il y a quelque chose que je veux comprendre et que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que je vais vous amener à un verset de la parole de Dieu qui m'a interpellé. Parce que si je venais à vous en vous disant, vous savez, moi, la Bible, il n'y a pas de problème, je la connais du début jusqu'à la fin. Je connais tout. L'Apocalypse, le livre de Job, les Proverbes, comment dire, le Cantique des Cantiques, j'ai tout compris. Hein? Bon, je crois que si je disais cela, vous auriez tendance à vous moquer de moi. Hein? Oui, mais il y a des moments, il y a des versets qui me semblaient absolument connus de ma part, et je n'avais plus besoin d'aller potasser dedans, de méditer dessus. Et c'est vrai qu'avoir 12 pierres, ça peut être intéressant, d'avoir des moments de méditation en se disant, oui, il faudrait peut-être que je revoie ce que j'ai vu. Est-ce que je l'ai bien compris? Et c'est à cause de ça que je suis arrivé à vous dire le titre de mon message, le Dieu du principe de l'effort. Donc, Dieu va jusqu'aux extrémités de sa toute-puissance, excusez-moi l'expression, ça ne correspond pas vraiment au tout-puissant, mais je suis être humain et je n'arrive pas à faire autrement que de donner des limites qui sont mal définies et qui, enfin, avec laquelle j'aimerais que chacun de vous vous réfléchissiez à cette toute-puissance étonnante, n'est-ce pas, qui n'est pas du plein magicien qui fait un coup de baguette magique, quelque chose qui correspond à la nature même de Dieu. Il est tout puissant et pourtant il est dans le temps. Et il fait des choses bien scandées, sériées, qui sont... On a l'impression qu'il y a un lien entre les deux. Hein. Vous voyez qu'au début, c'est la lumière et les ténèbres. Et le quatrième jour, c'est la création des luminaires. Hein. Et on voit qu'il y a des corrélations, il y a des choses à comprendre. Et encore aujourd'hui, hein, à comprendre. Bizarre. Il est bizarre, le Tout-Puissant. Il m'interpelle. Et j'essaie encore de le comprendre. Et il veut se faire comprendre. Et en même temps, en voulant se faire comprendre, on aperçoit qu'on n'arrive pas à le comprendre. C'est embêtant. Mais c'est pourtant ce qu'il veut. Que nous le recherchions. Alors, ce verset qui m'a interpellé, vous le connaissez très bien, c'est « Et il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. » Il a plu à l'Éternel, c'est en français, hein, en français de Louis II, hein, « Et il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Alors, je ne sais pas si ça vous interpelle, mais moi ça m'interpelle. Je suis papa de 4 enfants, et je peux vous dire que ça ne me ferait pas plaisir du tout d'en briser un, pas tous hein, quand même, par la souffrance. Déjà, un seul, quand il se met à souffrir, je souffre, et mon épouse aussi. Hein. On a souffert déjà avec nos enfants, quelquefois à cause d'eux, et quelquefois non pas à cause d'eux, mais parce qu'ils vont pas bien. Et qu'ils ne vont pas bien, alors nous, on ne va pas bien. Et on souffre. Et là, ce verset, je l'ai depuis toujours. Et c'est un verset que vous connaissez, qui est de Ésaïe au chapitre 53, au verset 10. Et qui fait qu'il y a même des juifs, quand ils lisent ce chapitre 53, eh bien, ils se convertissent. Il y en a qui se convertissent, parce qu'il marquait avant qu'on a mis son tombeau avec le riche, n'est-ce pas, et qu'il a été méprisé, et comme un agneau destiné à la boucherie. Certains font une corrélation, même sans le vouloir, et ils font une corrélation avec l'existence de ce Christ qui est venu il y a 2000 ans à peu près, et qui semble être le réel Messie. Et certains juifs se convertissent à cause du chapitre 53. Ce qui fait que les rabbins ont trouvé une solution, hein, du 52, ils passent au 54. Comme ça, on n'utilise pas le 53. C'est trop dangereux. Il y a des gens qui se convertissent au christianisme, qui est le christianisme, le symbole de tout l'antisémitisme, disent-ils, de la cause de leur malheur, quoi. Hein, c'est pas faux. Hein. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup dans l'histoire de situations tristes à ce sujet. Alors, Évidemment, comme vous savez que je connais l'hébreu, enfin, je ne connais pas l'hébreu, excusez, je m'intéresse à l'hébreu, hein, et je vous encourage à le faire aussi, et je me dis, quand même, Seigneur, tu sais, moi j'ai quand même 4 enfants, ça me fait quand même pas plaisir quand ils souffrent, alors si jamais en plus je me mets à les faire souffrir, ça va pas vraiment du tout. Écoute Seigneur, je voudrais que tu m'expliques un peu parce que je crois qu'il faut que je potasse là-dessus. Hein. Donc je me suis dit, je vais aller regarder dans l'hébreu et puis dans le grec, bien sûr, hein, la Septante si vous voulez. Donc dans l'hébreu, ça donne. J'ai entendu que je retire mes lunettes parce que je vieillis, excusez-moi. Ça donne Vayevay Keifetz, Dako Ekeli Imtasimasham, Nafshu Yire Zera. Yaerik Yamin, Yamim, pardon, Vea Efetz, Veka Efetz, Yevay Beyado Yitzlak. Ça donne mot à mot ceci. Vayevay, c'est et Yahvé, et. Hein, donc, ça, c'est quelque chose qui suit les versets précédents, hein, que vous connaissez aussi, bien sûr. Et Yahvé a désiré. A pris plaisir. Donc, Vayevay Dako, Kefetz, pardon. Vayevay Kefetz, c'est-à-dire, et Yahvé Kefetz a pris plaisir. Alors, je me disais certainement que dans la traduction Louis II, il a fait ce qu'il a pu, ce pauvre homme, enfin, pas si pauvre que ça, mais en tout cas, il a essayé de transmettre ce qui est écrit, n'est-ce pas? Sans vouloir masquer quoi que ce soit, mais peut-être que dans l'hébreu, je vais peut-être trouver quelque chose qui va me permettre de dire que ce n'était pas une bonne traduction. Donc, Vayevay Kefes, et Yahvé a pris plaisir. Dako, Dak, brisé, O, lui, de le briser. Je me suis aperçu que dans l'hébreu, c'était encore la même traduction qu'en français. Vous me direz, ça ne m'a pas étonné du tout. Je me suis dit quand même, le traducteur va essayer quand même de traduire. Hein. Bon. Et puis, s'il y a quelque chose, voilà. Bon, je continue. Kefetz et Keli. Il a plu de le briser en le faisant souffrir. Donc, on peut briser quelqu'un, peut-être intellectuellement, moralement, le mépriser, lui donner de la haine, et ainsi le briser, si vous voulez. Mais là, c'est par la souffrance. Hein, par la souffrance. Et puis après, il est marqué « Imtasim Hasham Nafshu », ce qui veut dire « Si il place » son être, hein, Nafshu, hein, si il place son être comme sacrifice de réparation, hein, si il place son être comme un sacrifice de réparation, il verra une descendance ou il verra une semence. Il prolongera ses jours et le désir de Yahvé par sa main réussira. Je dis, Seigneur, explique-moi un peu, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est dit là? Tu peux pas dire quand même, Seigneur, que tu as brisé ton fils par plaisir, parce que c'est ce qui est marqué. Et c'est là que je me suis aperçu que je voyais pas bien cette notion ici qui est dans notre Bible, en hébreu ou n'importe quelle langue, hein. En fait, c'est Yahvé. C'est pas Dieu le Père, c'est Yahvé. Yahvé, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, le terme Kefetz veut dire il a pris plaisir, mais quand on le regarde dans toutes les occurrences de la Bible, Kefetz est toujours lié à une réflexion sérieuse, mûrement réfléchie. Et de dire, voilà, nous avons un problème et nous allons trouver une solution. Il y a comme une espèce de colloque comme une espèce de réunion de crise qui s'est faite. C'est Yahvé le Père, Yahvé le Fils, Yahvé le Saint-Esprit qui, ensemble, ont pris plaisir, mais avant de prendre plaisir, ils ont, après mûre réflexion, dit « Ouais, c'est ce qu'on va faire. » Et ça nous fait plaisir. C'est merveilleux. On va faire ça. C'est ça la solution. La solution, c'est ça. Alors on me dirait « Oui, d'accord, oui, oui. » D'accord. Mais c'est ça que ça veut dire, en fait. Et là, je n'avais pas bien compris. Ce n'est pas le père qui prend plaisir à faire souffrir son enfant, mais c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui, de concert, ont dit « Il faut que ça se passe ainsi. » Oui, mais cette réflexion est venue, cette mûre réflexion est venue après une chose grave. Et vous connaissez la chose grave, bien sûr. Hein? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, le Tout-Puissant, a mis 5 jours, ou 5 périodes, à faire ce qu'il avait à faire. Et tout ce qu'il a fait, chaque jour, il dit que c'était bon. Enfin, peut-être pas le deuxième jour, il n'est pas marqué. Enfin, je ne crois pas qu'il soit marqué que c'était bon. Mais c'est convenu dedans. Hein. Mais non, tous les jours sont bons. Le Tout-Puissant a créé des choses sérieuses, de manière organisée, et c'était bon. Mais le sixième jour, ce fut plus que bon, on pourrait dire. C'est-à-dire, ce fut très bon. Hein, c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Et ce fut très bon, c'était l'être humain. Mâle. Mâle, avec un accent très grave sur le A. Et il fallait la femelle. Mais elle n'était pas là. Et contrairement à tout ce qui s'est passé avant et qui a été de la puissance de Dieu tout puissant, sans intervention de quoi que ce soit d'autre, il y a là quelque chose de curieux, c'est qu'au sixième jour, il est demandé à l'homme, l'être humain mâle, d'intervenir dans cette création. Et qu'est-ce qui se passe dans cette intervention? C'est de dire, eh ben, il manque à la femelle. Et après avoir désigné tous les animaux, cet être humain parfait doit comprendre avec Dieu. Non pas imposé par Dieu et sa toute-puissance, mais de lui-même, Dieu va l'amener à l'éduquer par l'absence et par le fait de comprendre qu'il faut encore quelque chose. Pourtant, toute la création est faite. Non, il manque encore quelque chose. Il manque l'épouse. Vous faites la relation avec la notion d'épouse telle que Dieu la voit. Pour ce qui est de l'épouse spirituelle, l'épouse de Christ, il y a quelque chose qui ressemble. Et nous savons que la femme est le symbole de l'épouse de Christ et que l'homme est le symbole du Dieu Tout-Puissant. Dans une sorte de maquette de la réalité qui va s'amplifier après ces 7 jours et qui va encore se développer. Dieu, dans sa toute-puissance, ou dans l'extrémité de sa toute-puissance, excusez-moi, hein, je reprends des termes que j'arrive pas à, disons, j'arrive pas à trouver d'autres termes, il va jusqu'aux extrémités de sa toute-puissance et même en étant à l'extrémité de sa toute-puissance, il y a une perspective pour encore quelque chose de plus grand que toute cette toute-puissance manifestée. N'est-ce pas? Et alors, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un type très sympathique qui vient les voir et qui leur dit, vous savez, vous pourriez, au lieu de manger de l'arbre de vie et de manger de tous les arbres du jardin, vous pourriez faire quelque chose qui soit encore mieux. Et c'est quelque chose qui serait encore mieux, c'est que sans effort, sans même... parce que quand on parle d'effort à ce moment-là, c'est toujours embêtant parce qu'on pense à la peine. Parce que pour nous, ce qui est de l'effort est toujours lié à la peine. On travaille à la sueur de son front, hein, ou de la sueur de ses neurones, je sais pas, ou de ses muscles, et c'est ensuite qu'on en reçoit une récolte, quoi. C'était un peu comme ça avant, mais c'était pas aussi intense et aussi dramatique que maintenant. Le dieu du principe de l'effort, je ne pense pas qu'il était au bout du premier jour en train de se dire oh, qu'est-ce que j'ai transpiré aujourd'hui, hein? Non, c'était, il allait au bout de sa toute-puissance sans être, enfin, ce que je pense, je peux me tromper, hein, enfin, on peut en discuter, mais il n'était pas épuisé. Il n'était pas épuisé. C'est le Tout-Puissant. Et donc, pendant tous ces jours-là, il n'est pas épuisé. Et il arrive quand même à nous dire que le repos est important. Donc nous concevons parfois le repos comme étant quelque chose qui suit l'épuisement ou la peine. Alors que ça fait partie du principe de Dieu tout-puissant qu'il n'est jamais épuisé, qu'il ne se fatigue, ni ne dort, ni ne, hein, il ne se fatigue pas. Hein. C'est sa nature, c'est comme cela. Donc, il nous faut sortir de notre idée que le Shabbat, ou le dimanche pour nous, est un endroit où on va se reposer de la peine que nous avons eue pendant les six premiers jours, enfin, voilà. Non. C'est curieux, hein, c'est le Dieu comme cela. Il est comme cela. Puis quelqu'un vient dire à nos premiers parents, écoutez, ce serait beaucoup plus rentable pour vous. Nous faisons une réunion à trois, vous voyez, et puis c'est une réunion de travail entre nous, n'est-ce pas, une réunion de réflexion, n'est-ce pas. Je pense à vous, moi je suis très intéressé à ce que vous puissiez vous développer, hein, et que ce développement soit pour vous parfait, et que vous puissiez grandir à une vitesse supérieure, la cinquième ou la sixième, je ne sais pas, enfin bref, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont séduits par l'idée de ne pas faire d'effort. Ils se disent, nous allons comprendre tout de suite quelque chose qui nous a été interdit. C'est facile, ça va marcher. Vous voyez la façon dont je vous présente les choses. On dit, ils ont désobéi. Oui, bien sûr, ils ont désobéi. Ça, c'est clair. Mais derrière, il y avait un esprit qui était celui du commerce. Je ne voudrais pas dire commerce dans le sens légitime du terme. Si vous avez un commerçant qui vous vend un produit, il faut forcément qu'il fasse un petit bénéfice, un bon bénéfice, pour faire fonctionner son système. Il y a les impôts et tout ça, hein, vous connaissez l'affaire, bon. Il y en a qui connaissent plus que d'autres, mais bon, voilà. Et puis, c'est tout à fait légitime. Mais il y a aussi la notion de commerce dans le sens de la magouille. Hein? Dans le sens de, si je fais ainsi, je vais gagner quelque chose sans avoir fait d'effort et de manière illégitime. Je vous ai déjà donné des exemples, et dans la parole de Dieu on en parle, on dit qu'il n'y ait pas de fraude, qu'on n'use pas de fraude envers son frère, n'est-ce pas? Et donc un commerçant qui vend quelque chose à son frère va le faire avec toute légitimité. Mais il ne va pas essayer de faire du 200%, si vous voulez, ou vendre son produit à des coûts prohibitifs. N'est-ce pas? Parce que il sait, et le Seigneur lui dit à ce commerçant chrétien, deux sortes d'époux, deux sortes d'éphas sont en abomination à l'Éternel. Dieu veut une rectitude dans notre façon de, de, de penser. Même si personne ne le sait, on ne va jamais magouiller, tromper quelqu'un. C'est pas possible. On ne veut pas. Parce que c'est pas parce qu'on a Dieu au-dessus de soi. C'est pas parce qu'on a Dieu avec nous qu'on va se dire « Oh, j'ai peur que Dieu me punisse pour la grosse magouille que je vais faire. Alors, je la fais pas. » Non, c'est Dieu voudrait que chez nous, que chez moi, il y ait cette notion d'être juste, de ne pas faire deux poids, deux mesures. Je me souviens vous avoir déjà parlé d'un garagiste qui a deux clients. Et puis il y en a un, c'est son pote à lui, et de l'autre côté, c'est un client lambda qui ne connaît pas. Ou alors celui qui vend des machines à laver, et puis si c'est son copain, il va dire, oh, tu sais, il y a juste une tuyau à remettre, et puis c'est bon, allez, tu me donnes 10 euros, c'est bon, ça correspond au temps de travail que j'ai passé sur ta réparation. Et puis il y a un autre client qui arrive avec le même problème, avec la même voiture, etc., ou le même lave-vaisselle, et puis là, il dit, oh, vous savez, votre lave-vaisselle est fichu, quoi, hein. Alors que c'est pas vrai, c'est le même truc. Vous comprenez que la notion du bien, elle a changé en France comme ailleurs depuis que Dieu n'existe plus. Puisque Dieu n'existe pas, faire des affaires, c'est bien. Si je peux me développer mon entreprise, parce que j'ai quand même des ouvriers et des gens à payer, hein, alors si je peux faire 200% sur un bénéfice, sur un truc, je vais le faire. Deux sortes de poids, deux sortes d'effets sont en abomination à l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé avec nos premiers parents. Ils ont été séduits par la désobéissance, mais aussi par l'idée que sans effort, on peut avoir quelque chose. Il y a dans le principe de l'effort, dans le principe du Dieu de l'effort, quelque chose qu'il nous faut toujours saisir. Je ne veux pas dire que c'est une révélation pour vous, mes frères et sœurs. Je sais bien que vous connaissez l'Évangile, vous connaissez le Seigneur, vous savez comment il est, comment il fonctionne. Enfin, vous savez, vous êtes comme moi. Hein. Je cherche après le Seigneur, mais je ne connais pas tout du Seigneur, mais il y a des principes de base que l'on comprend. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Dans le psaume 40, vous connaissez, hein. Dans le psaume 40, il nous est dit, psaume 40, verset 7, il nous est dit, « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. » Bon, le fait d'avoir les oreilles ouvertes, c'est la compréhension spirituelle des choses, certainement, et c'est aussi le symbole du serviteur qui volontairement veut être le serviteur de son maître pour toujours. Et il veut l'être pour toujours et il va au temple avec son maître, ou plutôt son maître l'amène au temple. Et devant Dieu, ce serviteur va avoir l'oreille percée. Et en ayant l'oreille percée, il sera visible pour tout le monde que ce serviteur-là, c'est le serviteur de son maître pour toujours. Et c'est ce qui se passe aussi ici. Donc c'est, tu m'as ouvert les oreilles, ça veut dire, tu m'as donné la compréhension des choses. Et ce n'est pas pour rien que le serviteur qui se rend serviteur pour toujours de son maître se fait ouvrir l'oreille. C'est pour montrer de manière physique, comme nous avons pris le baptême de manière physique, que c'est un problème spirituel. Et que nous voulons être, nous aussi, les serviteurs qui allons au temple, nous faire percer l'oreille pour être le serviteur pour toujours de notre maître. Mais ce n'est pas tout. Nous savons très bien que ce psaume 40 nous parle du serviteur, le grand serviteur, Jésus, qui a décidé d'obéir à son maître. Qui n'est pas son maître, c'est son père, c'est le Père Céleste, c'est à Yahvé le Père. Et Yahvé le Fils décide de devenir serviteur de son Père, alors qu'ils sont d'égalité. Hein. Philippiens chapitre 2, il n'a pas regardé comme une proie a arraché son égalité. Donc ils étaient égaux. Mais il a dit, non, je... écoute papa, enfin je ne sais pas comment il se parle, écoute papa, je veux devenir ton serviteur. Mais non, attends, oui, mais vous avez raison, c'est extraordinaire ce qui se passe, c'est ce que nous allons faire. Regardez, dans Genèse chapitre 4, chapitre 3, chapitre 3, il s'est passé un gros bazar. Je ne sais pas si vous savez, au début de la Genèse, hein, c'est qu'il y a un type sympathique qui est venu voir nos premiers parents et qui leur a dit, bon bah, faites ça, vous allez voir, vous allez gagner un max. Hein. Ils ont tellement bien gagné qu'ils ont tout perdu. Hein. Il semblerait qu'ils aient tout perdu. Donc, il y avait le Père, il y avait le Fils, il y avait le Saint-Esprit se réunissent. Il n'est pas marqué que c'est à ce moment-là, mais à mon avis, oui, c'est déjà à ce moment-là. Regardez ce qui est marqué. Chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le, maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Surtout, il ne faut pas qu'il devienne éternel et éternellement pécheur. Il ne faut surtout pas qu'il devienne éternellement pécheur. Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden l'homme pour qu'il cultive la terre et qu'il en reçoive les fruits. Hein. C'est ainsi qu'il chassa Adam et les chérubins. Et il mit à l'orient du jardin une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Hein. Et il a mis des chérubins, hein, voilà, qui agitent une épée flamboyante. À ce moment-là, bon, c'est moi qui le dis, mais je pense que c'est à ce moment-là que le psaume 40... C'est à ce moment-là qu'il y a cette réunion, une réunion de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et qu'elle est décrite dans le psaume 40, où Dieu le Fils dit, il dit, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Ça va servir à rien. » Pourtant, dans le psaume 40, c'est quand même déjà un bail que tous les ans, les Juifs vont au temple. Enfin, là, au temple, c'était plutôt l'Arche d'Alliance, puisque c'était les David. Donc, c'était l'Arche d'Alliance qui était, je ne sais plus, c'était pas Gilgal. C'était, oh, je ne sais pas, bon, je ne sais plus. Mais, donc, ils faisaient leurs ablutions et les sacrifices perpétuellement pour être sauvés de leur péché tous les ans, la Pâque, etc. Et il nous est dit ici que ça ne sert à rien. Enfin, sous-entendu, ça ne sert à rien. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles, tu as fait de moi ton serviteur, etc. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors moi je dis, alors vous voyez le verset ici, le 8, a été traduit différemment, et même second met ces fameuses traductions. Et les trois traductions en question se valent, elles se valent. Il n'y en a pas une qui chasse l'autre comme un billard à trois bandes. Non. Les trois sont bons. Alors je dis, hein, il nous a dit, voici je viens. Il nous est dit, dans la version second a choisi plutôt ça, mais bon, on pourrait en prendre d'autres comme traduction, avec le rouleau du livre écrit pour moi, hein, je viens avec le rouleau, on a l'impression qu'il vient avec son rouleau, hein, et puis il dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Tu veux être bon avec des gens irrémédiablement pécheurs. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Il dit que ça ne sert à rien. Pourquoi il faut faire ces trucs-là qui ne servent à rien? Il faut les faire quand même, parce que Dieu a commandé de les faire. Mais ils ne servent à rien. Allez dire à votre enfant, écoute, tu vas faire ça, mais ça ne sert à rien. Bon, peut-être qu'à 4 ans, il va le faire, mais à 18 ans, ça m'étonnerait. Hein? Toujours est-il que c'est ce qui se passe. Hein? Et en fait, on s'aperçoit que le Fils, Yahvé le Fils, dit, je suis prêt à faire ta volonté, à devenir ton serviteur. Et si nous n'étions pas d'accord, et si vous n'étiez pas d'accord avec cela, ce qui m'étonnerait, il nous faudrait prendre plutôt Hébreux chapitre 10, verset 57. Je crois que c'est ça, il y a une référence ici. Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et nous voyons dans Hébreux, au chapitre 10 et au verset 7, hein, j'ai dit 57, non, c'est 5 à 7, excusez-moi. Hébreux, 5 à 7, 10, 5 à 7, il nous est dit. C'est pourquoi Christ, qui entre dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » C'est donc la répétition du psaume 40. « Tu n'as égré ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit « Voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oui, ça c'est une autre traduction. Dans le rouleau du livre. Donc il y a un livre, c'est le livre de vie ou c'est le livre de quelque chose. Il y a un rouleau dont il est fait mention par le Fils, qui dit une chose, c'est que il est concerné, il est concerné par ce rouleau. Et en plus, dans ce rouleau, c'est vraiment de lui qu'on parle. Hein. Et il nous a dit, alors j'ai dit, verset 7, Hébreux 17, alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Hein, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni agréer, ni sacrifice, ni offrande. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit bien que ces sacrifices ne servaient à rien. Ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi l'ancien système pour un nouveau. On ne va pas discuter là-dessus, mais c'est là-dessus qu'on s'aperçoit que Ésaïe 53, 10 nous dit, voilà, je vous répète ce que j'ai dit mot à mot sur cette réalité du salut en Jésus-Christ. C'est à 11h30 qu'on arrête ou? Ouais, bon, alors je suis en retard d'un quart d'heure. Bon, j'arrête. J'arrête bientôt. Dans une heure, quoi, après, non? Non, bon, bref. Et Yahvé a mûrement, Yahvé, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ont mûrement désiré qu'il soit brisé par la souffrance. S'il place celui qui est brisé par la souffrance, son être comme sacrifice de réparation, hein, le terme c'est sacrifice de réparation, il va prolonger ses jours. Effectivement, il va ressusciter. Hein, et le désir de Yahvé le Père, le Fils, le Saint-Esprit, à cause de lui, par sa main, à Yahvé le Fils, eh bien, ça va réussir. Donc, si vous voulez, il nous a dit, ça va réussir. C'est-à-dire, ce qui est dit dans Ésaïe 53:10, on a l'impression que c'est ce qui a été décidé dès la fermeture de la vie éternelle par les chérubins dans le jardin d'Éden. Dieu, il est content parce qu'il a trouvé une solution, parce que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et là, on a l'impression qu'il était vraiment pris au dépourvu. Nous, on l'aurait été, n'est-ce pas? Lui, il n'est pas pris au dépourvu. Il y a le Fils, bien sûr, vous connaissez hein, tout là-dessus. Le Fils qui va payer de sa vie, et c'est prévu dès la chute de l'homme. Donc l'homme, Dieu prévoit qu'il meure physiquement, son corps de matière là, qui est très malade, le mien en tout cas, et il va permettre que nous ayons un autre être, un être qui sera plus lié à ce péché qui nous enveloppe si facilement. Et je dois confesser que quand j'ai voulu me concentrer sur Isaïe 53:10, j'avais bien sûr la notion du péché, mais comment dire, cette idée que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que finalement, on pourrait peut-être faire quelque chose pour aider Dieu. Dieu a fait l'expiation, il a tout fait, mais je pourrais peut-être rajouter un petit peu quelque chose pour que Dieu soit encore plus content de l'expiation. C'est ce qui se passe dans le système catholique, c'est de croire que par nos œuvres, nous pourrions peut-être quand même contribuer un petit peu à notre salut. Pas beaucoup, mais un peu. Et je pense que ça peut nous-mêmes protestants, hein, qui sommes pourtant héritiers de cette grande réalité que c'est par la foi que nous avons le salut, comme l'a dit Martin Luther. Eh bien, voilà comment ça peut s'insérer dans notre cœur, dans mon cœur. Non, ce grand principe des Ésaïe 53:10, c'est la mûre réflexion qu'il y a eu dès cette catastrophe du Jardin d'Éden. Dès la catastrophe du Jardin d'Éden, Dieu avait trouvé une autre solution. Alors, j'en resterai là. Nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est ce qui nous est dit dans Hébreux. Hébreux chapitre 12, après l'exemple qui nous est donné dans le chapitre 11 de tous ceux qui ont vu le salut de loin et qui n'ont jamais vécu les bénéfices de ce salut autrement que spirituellement et que matériellement ils ne l'ont pas vraiment vécu. Certains ont été lapidés, d'autres sciés, d'autres torturés, hein, sans, et qui ont regardé, qui ont salué de loin, comme Abraham. Hein, voilà. Et il nous est dit, après tout cela, nous, chapitre 12 du livre des Hébreux, nous aussi, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Écoutez bien, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc nous voyons que Dieu, qui a des principes, qui fait les choses de manière organisée, premier jour, deuxième jour, troisième jour, il le fait également pour notre sanctification, pour notre vie de chaque jour. Ça se fait aussi par... nous sommes la fin du verset 1, hein, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, donc sur Dieu, Yahvé, le Fils, hein, qui suscite la foi, qui provoque la foi, qui développe notre foi, hein, et qui la mène à la perfection. Donc, toujours le processus, hein, de l'effort. Pour nous, ça peut être un effort, mais Dieu nous dit, allez, fais un petit effort. Hein, en échange de la joie qui lui était réservée. Vous voyez, donc on voit le plaisir qui revient. Hein. Lui, en échange de la joie qui lui était réservée, donc il y avait le Fils, eh bien, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et dans Marc, vous avez remarqué, l'évangile se termine par « Et le Seigneur Jésus remonta au ciel et il s'assit à la droite de Dieu ». On a l'impression que c'est juste un truc comme ça, une petite formalité, mais ça a été une formalité quand même assez dure à faire, et pourtant il l'a faite, n'est-ce pas? Donc il est dit, il a souffert la croix, méprisé, verset 2 du chapitre 12 d'Hébreux, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hein. Considérez en effet celui qui a supporté sur sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous aussi, vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Alors, je me suis dit, mais tu sais, Étienne, tu te rends compte à quel point Tout ça, ça a été prévu dès le départ. Il y a eu la chute et tout de suite derrière, paf, Dieu a trouvé la solution. Pas pris au dépourvu. Alors s'il n'est pas pris au dépourvu pour la chose la plus extraordinaire qui nous arrive, est-ce qu'il va être pris au dépourvu pour nos petits bobos qui nous arrivent, hein? Vous comprenez? C'est ça qui est extraordinaire, hein? Et donc, c'est ça qui nous est dit ici. Il convenait en effet, Hébreux chapitre 2, verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Hein? Donc, ah, c'est ça qu'il voulait faire. Et je vous rappelle, on en a déjà discuté, hein, Satan, lorsque Jésus se fait plonger dans l'eau du Jourdain, Jean-Baptiste lui dit, non, 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 c'est un scandale ce que tu fais. Tu arrêtes tout de suite là, Jésus, tu arrêtes. C'est moi qui dois être baptisé devant toi, c'est pas toi. Et lui, le Seigneur Jésus, sans péché, il s'identifie au pécheur et il dit, je suis moi aussi pécheur. Ce qui n'est pas le cas. Alors c'est pour ça que Jean-Baptiste n'est pas d'accord. Et il a raison de ne pas être d'accord, mais Jésus lui dit, laisse, il faut que nous fassions toute la volonté de Dieu, là. Et donc, il ne lui résista plus, il nous a dit. Mais vous savez qu'autour de ce baptême de Jésus, il y avait les pharisiens, hein. Il y avait tous les gens qui étaient là. Hein. Oh, vous voyez, le Messie, bah, vous voyez, il est pécheur comme tout le monde. Il est pécheur comme tout le monde. Regardez, il se fait baptiser. Et donc, à partir du moment où il s'est dépouillé lui-même, en obéissant jusqu'à la mort de la croix, mais là, ce n'est pas encore la mort de la croix, hein, en se dépouillant lui-même, il va être enlevé au désert. Hein, et avant d'être enlevé au désert, il y a une voix qui vient du ciel et qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Ça a été écrit en grec, mais... Si c'était en hébreu, on aurait exactement le même truc qu'Ésaïe 53, hein, vous comprenez? Alors, j'arrête, hein, parce que vraiment je suis bavard. Je vous demande pardon. Eh bien, j'en ai déjà parlé, mais vous savez que la Pâque juive, aujourd'hui, c'est donc trois matzas, hein, trois pains sans levain, qui sont les uns sur les autres. Le pain du haut, c'est représente Yahvé, le Père. Le pain sans levain du milieu, c'est Yahvé, le Fils. Et le pain sans levain en dessous, c'est Yahvé, le Saint-Esprit. Les Hébreux, les Juifs, donc mangent la Pâque. Et qu'est-ce qu'ils font à un moment donné? Ils prennent la matza du milieu. Il la coupe, mais de manière dissymétrique. Un petit morceau. Ils prennent la matza et ils se la partagent entre eux. Et l'autre bout de la matza, ils courent jusqu'à l'extrémité de la table de cérémonie et ils cachent l'autre bout, le plus gros, en dessous d'un nappe. Ben, en fait, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été fait pécheur pour nous et qui est mort à notre place. On partage le pain. Et l'autre partie de Jésus-Christ est cachée. Elle est cachée, elle ne se voit pas. N'est-ce pas? Quand Christ paraîtra, vous paraîtrez aussi dans la gloire. Vous avez dans la Pâque juive, vous, aujourd'hui, de ceux qui sont en train de partager quand c'est la Pâque juive, des symboles qui ressemblent bigrement à l'œuvre de Jésus-Christ, qui l'a faite à la croix, mais qui était déjà prévue dès avant la fondation du monde. Voilà, excusez-moi, je vais m'arrêter là, parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire, mais on va quand même s'arrêter. Voilà. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous t'en rendons grâce, parce que c'est vrai que je n'avais pas bien compris, et je n'ai toujours pas bien vraiment tout compris de ta parole, et en particulier d'Ésaïe 53, verset 10, où tu as désiré vivement faire cette expiation du péché pour nous sortir de cette condition de l'homme pécheur, irrémédiablement pécheur, qui ne peut rien faire pour se sauver et qui ne sera libéré de ses problèmes à la mort physique, pour ensuite être ressuscité avec toi dans les lieux célestes. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que tu nous veux. Tu vas nous donner un corps céleste qui n'est pas un corps éthéré, mais un corps, un véritable corps qui remplacera le nôtre, qui est déjà bien malade. Seigneur, nous voulons te remercier parce que cette réalité, elle devrait m'enthousiasmer bien plus pour voir la vie de chaque jour avec bien plus de joie et que je ne sois pas lassé et découragé. Je veux te remercier, Seigneur, et je te demande la même chose pour tous nos bien-aimés, que, Seigneur, tu nous encourages dans les souffrances qui nous arrivent, en, non pas en comparant avec les tiennes, mais en comprenant ô combien tu veux nous éduquer et nous donner une espérance qui est vraiment vivante, celle qu'un jour nous serons vainqueurs, entièrement vainqueurs, avec toi. Amen.